Merci d'avoir en tout cas amorcé une réponse à cette question. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire quand même quelle prétention, si on peut juste reculer pour revoir le titre de ce qu'on vise à présenter, l'histoire de l'univers en 30 minutes. Qui suis-je pour vous présenter cela? Et comment s'y prendre? Déjà dans les cours en philosophie qui battent le plein à l'époque où nous sommes de l'histoire, militent contre la notion même de l'histoire. Très souvent, nous ignorons le passé. Là où nous entendons parler de tel ou tel événement du passé ou telle pratique du passé, nous sommes souvent coupables de chronocentrisme, de projeter nos valeurs occidentales sur les époques qui ont précédé la nôtre. Ou encore, nous avons peur d'aborder l'histoire, ne sachant pas comment nous y prendre, parce que nous sommes conscients du risque, et c'est bien que nous ayons une telle conscience, le risque que notre perspective soit faussée. De plus en plus de personnes ont pris conscience de cela ces dernières années, pour parler du fait que l'histoire est rédigée plus ou moins du point de vue des prétendus dominants, et concrètement, souvent des hommes blancs et occidentaux, et on est de plus en plus critique à l'égard de cela. Je ne sais pas ce que vous avez donné comme réponse à la question dans la discussion de tout à l'heure, mais si jamais on pouvait entreprendre de résumer de façon satisfaisante l'histoire du monde, il faudrait disposer de connaissances tout englobantes. Il faudrait disposer d'une perspective parfaitement juste, sans parti pris. Et il faudrait disposer d'une capacité à discerner ce qu'est l'essentiel. Autrement dit, on s'appellerait Dieu. Et cela pourrait sembler trop beau pour être vrai, mais la réalité, c'est que Dieu a réalisé ce travail pour nous dans la Bible. Et je vous invite à vous mettre à l'écoute de ce survol de l'histoire, non pas simplement en vue de combler des lacunes en matière d'histoire, mais parce que nous avons besoin de ces points de repère. Vous allez vite comprendre qu'il est question de vie ou de mort. Je vous invite à suivre ce résumé de l'histoire en 8 étapes. Vous avez une fiche qui pourrait servir juste pour que vous suiviez aussi. Les diapositives vont figurer à l'écran. Alors, il y a quelques éléments pour les personnes qui ont une certaine familiarité avec la Bible. J'ai mis entre parenthèses les endroits de la Bible d'où je tire ces informations. Je ne vais pas beaucoup préciser en cours de route telle ou telle référence au sein de la Bible, mais vous pouvez savoir que je ne fais que tirer des informations de la Bible. Vous pouvez en principe tout vérifier, et il va y avoir aussi la possibilité de d'avoir un peu plus d'informations si vous souhaitez revoir cette matière sous une forme légèrement différente en visionnant une vidéo que vous pouvez trouver en cliquant sur ce lien-là. Vous pouvez savoir d'ores et déjà que nous allons marquer une pause après la 4e étape, occasion de discuter et de poser des questions. Voilà, on se lance. Première étape, nous voici au tout début. Dieu crée l'univers. Vous appréciez le coucher du soleil, les pivoines, les ours polaires, je ne sais pas ce qui vous émerveille. Mais c'est à Dieu qu'il faudrait rendre grâce, parce que c'est lui le créateur. Et signe de la création, nous êtres humains, créés en image de Dieu, mandatés pour gérer le monde mandaté pour nous multiplier. Au départ, les premiers êtres humains, Adam et Ève, sont de bons gestionnaires. Ils sont proches de Dieu. Ils sont libres de jouir de toutes les bénédictions du jardin paradisiaque dans lequel il se trouve, le jardin d'Éden. Il y a juste la nécessité de faire preuve de respect à l'égard de l'autorité de Dieu. Vouloir se mettre à la place de Dieu, viser à occuper son rang, bafouer son autorité, provoquerait de lourdes conséquences. Mais, hélas, la rébellion se concrétise. Chez Adam, chez Ève, chez tous les êtres humains qui sont suivis, les enfants d'Adam et Ève, toutes les générations, y compris chacun, chacune d'entre nous. Par exemple, qui est-ce qui, dans cette salle, n'a jamais tordu légèrement la vérité par tel ou tel propos? Je ne vois pas beaucoup de mains se lever, mais si jamais il y avait une main se lever, ça serait encore la vérité bafouée par vous. Et la malédiction se concrétise également. En quoi consiste la malédiction imposée par Dieu à la suite de ce rejet de son autorité? Eh bien, on l'observe encore aujourd'hui dans le monde que nous connaissons. D'abord, la mort. Dans certaines cultures, on a beau essayer de balayer la mort sous le tapis, mais c'est bel et bien une réalité. Au mois de septembre, j'ai vu ma mère mourir sur son lit d'hôpital. Et puis, l'éloignement dans les relations. Verticalement, les êtres humains ne sont plus en règle avec Dieu. Horizontalement, ils peuvent aussi devenir ennemis entre eux. Cain tue son frère Abel, et Lémec est un meurtrier plus menaçant encore. Rien qu'en Syrie, depuis 2011, plus de 400 000 personnes ont été tuées. Rien qu'en Syrie. Ou considérez le divorce. En 2013, près d'un million de divorces en Europe. Et enfin, le sol est maudit. Et qui voudrait le nier? La vie devient difficile, la grossesse et l'accouchement sont difficiles. On a des témoins de ça dans la salle. Avoir de la nourriture risque d'être difficile. Le travail devient difficile. Dieu déclare, le sol te produira des ronces et des chardons. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'était quand la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un, « Oh, je suis fatigué. » Ça, c'est le monde que nous connaissons. Et nous ne sommes pas capables de fonctionner comme nous le devrions. La maladie de Parkinson touche plus de 6 millions de personnes de par le monde. Mais oui, dans sa sainteté, Dieu prend la désobéissance très au sérieux. Il doit punir cette désobéissance. Il envoie même un déluge pour décrayer le monde en quelque sorte. Et pourtant, dans sa bonté, il n'efface pas l'humanité tout entière. Et dans sa bonté, il s'engage à ne plus jamais détruire le monde par un déluge. Le signe de cette promesse, c'est l'arc-en-ciel. La prochaine fois où vous verrez un arc-en-ciel, pensez à cet engagement divin envers l'univers. On peut donc recommencer après le déluge, les survivants, Noé et sa famille, sont mandatés pour gérer le monde et se multiplier. Redémarrage sur de bonnes bases. Oh, mais c'est rebelote. Ivresse chez Noé. Action honteuse chez son fils Cram. Défiance flagrante vis-à-vis de l'autorité de Dieu dans l'épisode de la construction de la tour de Babel. Désobéissance d'Adam, puissance 10. Dieu va-t-il être à bout de patience? Mais à ce point de l'histoire, on observe un tournant. Nous sommes à la deuxième étape, 1800 ans environ avant Jésus-Christ. Dans sa bonté extraordinaire, Dieu choisit Abraham et il promet à sa famille des bénédictions qui répondent point par point aux malédictions qu'il a infligées à l'humanité. Donc, vous vous souvenez des malédictions, la mort. Alors maintenant, Dieu promet qu'Abraham deviendra une grande nation avec une postérité de taille. Le peuple deviendra aussi nombreux que les grains de poussière, que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. La malédiction qu'est l'éloignement relationnel. Dieu promet maintenant que les membres de la famille d'Abraham jouiront d'une relation particulière, une relation spéciale avec Dieu. Dieu sera leur Dieu, leur Père. Et eux seront son peuple, son fils. Et la malédiction du sol, Dieu promet maintenant que la famille d'Abraham possédera une terre ruisselant de lait et de miel. Et il faudrait mettre tout cela en rapport non seulement avec la famille d'Abraham, mais au final, avec toutes les nations, selon ses promesses grandioses. Toutes les nations seront bénies en Abraham, et plus particulièrement en la descendance d'Abraham. Ces promesses fantastiques sont réitérées à Isaac et à Jacob, ou Israël. Et nous sommes à la recherche de leur réalisation. Et pour ce qui est des cinq premiers livres de la Bible, le maximum qu'on puisse dire, c'est que cette réalisation est partielle. S'agissant de la postérité de taille, le peuple devient nombreux, c'est même très nombreux, mais menacé par les Égyptiens. S'agissant de la relation particulière entre Dieu et le peuple, Dieu est présent au sein du tabernacle, une sorte de tente, mais il est aussi distant, car s'approcher de Dieu est interdit sous peine de mort. Et puis, s'agissant du pays, il est vrai que le peuple est libéré de l'esclavage en Égypte. Libéré de l'esclavage en Égypte, merci beaucoup. Mais plus tard, il sera condamné à 40 ans d'errance dans le désert à cause de sa désobéissance. En effet, à la suite de l'exode, comme on appelle ça, de la sortie d'Égypte, l'exode hors d'Égypte, Dieu établit un pacte, moment important dans l'histoire. Dieu établit un pacte avec le peuple. Et selon les termes de ce pacte, les Israélites seront le peuple particulier de Dieu, pourvu qu'ils respectent les 10 commandements et toute une série d'autres lois. Seul Dieu doit être l'objet de leur adoration. Ils doivent honorer leurs parents. Ils ne doivent pas mentir, et ainsi de suite. Et on découvre que les bénédictions promises à la famille d'Abraham sont maintenant conditionnées par l'obéissance. Et bien plus qu'en cas de désobéissance, ce sont des malédictions qui s'abattront sur le peuple. Les Israélites seront à court de nourriture, vaincus, enlevés de la terre. Moi, je pourrais vous dire que je vous offre 100 livres sterling, point à la ligne. Ou bien je pourrais vous dire, je vous offre 100 livres sterling, pourvu que vous gagnez le marathon de Londres en un temps record. Ce n'est pas la même proposition. Et on dirait que Dieu promet des bénédictions d'un côté, que les Israélites deviendront une immense famille avec lui pour père dans un pays magnifique. Et que d'un autre côté, il précise que ces bénédictions dépendent de la mise en pratique de la loi. Qu'est-ce qui va primer? Promesse ou pacte? Bénédiction ou malédiction? Le Dieu bon ou le Dieu saint? Eh bien, troisième étape, tout ira bien pour le peuple si le peuple arrive à obéir à la loi. Ah, mais justement, à peine les 10 commandements énoncés que le peuple rompt le premier commandement. Il lui est interdit d'adorer d'autres dieux en dehors du seul vrai Dieu. Mais au lieu de l'adorer, les Israélites fabriquent un veau à partir de métal fondu et affirment que c'est là leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et dans sa sainteté, Dieu réagit en se mettant en colère. En clair, la relation spéciale entre Dieu et le peuple est en jeu. Est-ce qu'il pourrait y avoir une solution? Eh bien, Moïse intercède auprès de Dieu en faveur du peuple. Il fait appel aux promesses faites à Abraham. Oh, mais Dieu, tu as promis de bénir le peuple. Et du coup, Dieu se retient de déverser sur les Israélites la pleine mesure de sa colère. Il n'empêche que 3000 personnes sont mises à mort. Et ce cas de figure se voit répété. Le peuple commet des péchés flagrants. Moïse, plus tard, Phinéas doit intervenir. Les Israélites restent intacts en tant que peuple, mais pas mal de personnes sont mises à mort. Et la question reste à l'ordre du jour. Comment la relation spéciale entre Dieu et le peuple peut-elle véritablement se manifester compte tenu de ce problème de désobéissance? Il est vrai que Dieu pourvoit un système de sacrifice qui est destiné à le rendre favorable au peuple après qu'il a commis des fautes. Des animaux qui sont mis à mort comme substitut à la place du peuple pour éviter que le peuple ne soit mis à mort en conséquence de ses fautes. Mais ce système des sacrifices n'est que partiel dans sa portée. Certaines fautes sont trop graves pour qu'il puisse y avoir un sacrifice qui procure le pardon. Par exemple, le meurtre ou l'adultère. Il y a un autre problème avec le système. Ces sacrifices doivent être offerts tout le temps parce que le peuple ne cesse de se rebeller contre Dieu. Et le bilan est le suivant. Que ce soit la médiation de Moïse ou le système des sacrifices, la solution n'est que partielle dans sa portée et temporaire dans son efficacité. Ce dont on a besoin, c'est une solution plus radicale, une solution totale et définitive. Et on aurait surtout besoin de régler le problème à sa racine. Mais pour cela, il faudrait envisager tout un nouveau cœur qui adorerait Dieu sans réserve. Ce serait là quelque chose d'extraordinaire. Mais justement, Dieu est extraordinaire. Écoutez cette promesse qui se trouve dans le cinquième livre de la Bible.
L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Oh, là, on commence à entrevoir la solution. Et pourtant, dans le même contexte, on constate que ça ne va pas venir tout de suite. Et nous arrivons à la quatrième étape. Et à ce stade, par moment, on peut être sur le point de se dire, mais voilà, les promesses faites à Abraham s'accomplissent. Le peuple est installé dans son pays, il connaît le repos, les ennemis sont vaincus, mais le problème de la rébellion est toujours sur le point de faire son apparition dans toute son horreur. Et en effet, on est vite témoin d'une spirale vers la débauche au sein du peuple d'Israël. Écoutez ce refrain que nous lisons. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une corrélation là entre le problème de rébellion et le manque de roi. Ce thème du roi se trouve maintenant propulsé sur le devant de la scène. Le roi a pour rôle de délivrer les Israélites de leurs ennemis. Car même si les Israélites se trouvent maintenant dans leur terre, ils sont menacés de toutes parts, par les Ammonites, par les Amalécites, par les Philistins. Le roi David réussit brillamment à vaincre ses ennemis, même le géant Goliath. Et à un moment donné, il y a 3000 ans, 1000 avant Jésus-Christ, Dieu fait cette promesse à David. Écoutez. « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Un descendant de David, dont le règne sera affermi définitivement. Et on pourrait croire que ce descendant, c'est son fils Salomon. L'optimisme est bien au rendez-vous lors de son règne. Il fait construire un temple impressionnant et la gloire de Dieu remplit ce temple. Le problème, c'est que une condition se greffe à cette promesse. Il faudra que le roi en question soit obéissant. Et Salomon, lui, se laisse détourner de Dieu par ses nombreuses femmes qui adorent d'autres dieux. Bien plus, l'histoire continue à se dérouler et on ne trouve aucun roi qui soit à la hauteur. Et le peuple, lui aussi, se révèle obstinément rebelle. Dieu procède donc à la punition des Israélites. À terme, arrive la grande superpuissance, les Babyloniens. Ils rasent le temple et le peuple est emmené de sa terre, déporté en Babylonie, exilé, malédiction. Nous sommes maintenant au sixième siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a plus maintenant de roi, ni de terre, ni de cité, ni de temple, ni de système de sacrifice. Et on pourrait croire que les promesses faites à Abraham et faites à David sont tombées à l'eau. Et pourtant,
Est-ce qu'il pourrait y avoir une lueur d'espoir ici, à ce stade de l'histoire, dans ce fait, un ancien roi israélite, emmené en captivité en Babylonie, donc exilé, mais là-bas, il reçoit un traitement de faveur auprès du roi de Babylone. Nous sommes à mi-chemin et c'est le moment de marquer une petite pause pour réfléchir à des questions pour qu'on puisse tirer le maximum de profit de ce survol de l'histoire. À vous donc maintenant de jouer autour des tables, moment de discussion. Je suis content que les discussions sont en plein cours et ces discussions pourraient continuer par la suite. Nous sommes arrivés à la cinquième partie de notre survol. Je vous rappelle que nous sommes à la recherche d'une solution au problème de la rébellion contre Dieu et de ses conséquences. Cette solution est présentée comme étant une immense famille qui a Dieu pour Père dans un pays magnifique. Promesse faite à l'origine à Abraham. Quelle bonté chez Dieu. Et cette solution dépend de la venue d'un roi dont le trône sera établi définitivement. Promesse faite à David. Quelle bonté chez Dieu encore. Mais selon le pacte, vous vous souvenez du pacte, la solution ne peut faire le court-circuit de l'obéissance envers Dieu. Sinon, ce sont des malédictions qui s'abattent sur le peuple. Nous avons vu que le peuple finit par être déporté en Babylonie. Quelle sainteté chez Dieu. Et avant, durant et après cette déportation en Babylonie, Dieu s'exprime par le biais de prophètes. Ces prophètes passent la majeure partie de leur temps à renforcer le pacte en faisant trois démarches. D'abord, ils mettent le doigt sur la désobéissance chez le peuple, l'infidélité, le non-respect du pacte, l'idolâtrie, faux culte, injustice, violence, oppression. Deuxièmement, ils exhortent les Israélites à changer de comportement, à changer de cap, à changer de cœur. Et troisièmement, ils annoncent les conséquences qu'entraîne l'obstination à désobéir à Dieu. Ces conséquences, eh bien, les malédictions, dont notamment cette déportation en Babylonie. Et les prophètes soulignent également que les nations en dehors d'Israël doivent être jugées. Elles aussi font preuve d'orgueil et refusent de reconnaître l'autorité de Dieu. Pas simplement les Israélites, mais les nations en général. À terme, la dégénération du cosmos tout entier est même prévue par les prophètes. Il va y avoir un jugement ultime et terrifiant. Dieu est saint. Mais les prophètes évoquent également les promesses faites à Abraham et à David. Et dans la bouche des prophètes, les promesses deviennent plus grandioses, gravissent un échelon, montent d'un cran. Le pays en question devient plus grand. Apparemment, il englobe le cosmos tout entier, voire un cosmos régénéré, si bien que le loup séjournera avec le mouton. Il sera ce nouveau cosmos comme le jardin d'Éden, mais à beaucoup plus grande échelle, bien entendu. Dieu est bon. Il y aura une nouvelle Jérusalem glorieuse, un nouveau temple glorieux. Le roi recherché, quant à lui, il viendra, il sera parfaite en justice. Il régnera pour toujours. Et en plus d'être ce descendant David qu'on recherche, il sera Dieu.
Mais nous savons déjà que non seulement le roi, mais encore le peuple doit être à la hauteur, doit obéir à la loi. Et là aussi, la solution est présentée par les prophètes dans des termes extraordinaires. Effectivement, le problème de la désobéissance sera réglé. Le cœur sera l'objet d'une intervention chirurgicale. Écoutez cette promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Plus de désobéissance. Mais cela s'appliquera à qui exactement? Et quand? Et pourquoi? Sixième étape. Vous vous souvenez de la nature de la solution au problème de la rébellion jusque-là? Les sacrifices qui procuraient un pardon partiel, on a dit, et un pardon temporaire. Chez les prophètes, nous nous trouvons en présence d'un pardon total et définitif qui est promis. Dieu promet, écoutez bien, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Comment est-ce possible? La réponse réside dans un certain personnage dont parle l'un des prophètes. En particulier, pas exclusivement, mais principalement, l'un des prophètes, le prophète Ésaïe. Ce personnage qui s'appelle le serviteur de Dieu. Cette figure sert à représenter le peuple de Dieu, mais il est parfaitement innocent, il est parfaitement juste. Ce personnage mène une vie parfaite à la place du peuple. Et puis, il meurt à la place du peuple, en substitut. En fait, il est puni par Dieu. Il subit la punition qui aurait dû être réservée pour le peuple. Le serviteur sert de substitut au peuple. Or, on découvre que le roi parfait que l'on recherche et le serviteur parfait que l'on recherche est un seul et même personnage. De plus, il sera en même temps un intercesseur parfait. Vous vous souvenez de ce que Moïse n'est pas arrivé à protéger tout le peuple de toute la colère de Dieu tout le temps. Eh bien, ce personnage réussira à apporter la solution totale et définitive. Et tout cela en lien avec un nouveau régime, avec de nouvelles dispositions. Qui est-ce qui bénéficiera de ce nouveau régime? Eh bien, les prophètes révèlent que les promesses ne s'appliquent pas aux Israélites en bloc. Seul un reste, un petit reste, une petite partie du peuple israélite s'approprie cette solution selon le critère de la confiance placée en Dieu. D'ailleurs, des ressortissants de toutes les nations jouiront eux aussi de cet avenir glorieux, car eux aussi s'attacheront à Dieu. Mais pour ceux qui s'obstinent à se révolter contre Dieu, un jugement terrifiant et irréversible est réservé à la fin des temps.
peu importe
son arrière-plan ethnique.
Soyez-en avertis dès ce soir.
Si vous n'êtes pas encore en règle avec Dieu, c'est maintenant le moment
de vous soumettre au Dieu saint et à placer votre confiance en lui pour vous approprier ses bénédictions. C'est gratuit, mais vous devez reconnaître son autorité.
Et dans ce nouveau régime, un tri s'opère selon justement ce critère, selon qu'on cherche refuge en Dieu ou non. Si vous avez déjà trouvé refuge en lui, je vous rappelle que Dieu se montre miséricordieux envers certains pour cette raison qui est mise en valeur par les prophètes.
Pour quelle raison? Il y va de son honneur.
Ce n'est pas parce que nous soyons aimables, même s'il choisit de nous aimer, mais pour sa gloire. Il ne peut pas permettre à jamais que les gens fassent fi de sa majesté. Les rebelles doivent être punis. Et son peuple doit être sauvé, afin que tout le monde reconnaisse la gloire qui lui appartient exclusivement. C'est pour quand ce nouveau régime, le nouveau cœur, le roi, serviteur, intercesseur? Eh bien, par-delà l'exil. Les prophètes parlent d'un retour au pays, suivant le modèle de la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez de cela? La sortie d'Égypte qui a eu lieu à l'époque de Moïse, cet exode. Il va y avoir un nouvel exode depuis la Babylonie vers le pays. On a hâte de ce moment. Mais selon la façon dont Dieu révèle l'histoire, l'attente continue, septième étape. Pourquoi est-ce que l'attente doit continuer? Eh bien, d'abord parce que Dieu explique à ce stade, comment vivre de façon sage? Comment? Eh bien, en le craignant, en vivant sous son autorité, en l'honorant, et cela dans tout domaine de la vie, dans toutes les circonstances, y compris la souffrance et la désillusion qu'inspire ce monde, y compris en matière de relations sexuelles. Mais où trouver un sage parfait? Et l'attente continue aussi parce que nous découvrons ce qui se produit à la suite de l'exil. L'attente est élevée, n'est-ce pas, quant à l'instauration de ce nouveau régime glorieux, quant à la perspective qu'on trouve la réalisation des promesses faites à Abraham et faites à David. On est à la recherche de cette immense famille avec Dieu pour père dans un nouveau cosmos magnifique. On a envie de voir ce nouveau cœur chez les gens. On a envie de voir l'arrivée de ce roi, serviteur, intercesseur. Cyrus le Perse, qui a maintenant succédé au régime babylonien, il accorde la permission aux uns et aux autres de rentrer. Nouvel exode. On est à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce retour au pays, ouais, pétard mouillé au regard des promesses, franchement. Il rentre au compte-gouttes. Et c'est toujours l'ancien régime qui est en vigueur, le pacte est encore en vigueur. Il y a une famine dans le pays. Ils reconstruisent les murailles de la cité de Jérusalem, c'est vrai, et même un nouveau temple. Mais ce temple est décevant au point de faire pleurer certains. Il y a des gouverneurs dans ce pays, mais pas de roi. En clair, le nouvel exode glorieux n'a pas vraiment eu lieu. Pas encore. L'attente continue.
L'attente continue aussi parce que selon la façon dont Dieu révèle l'histoire, il récapitule l'histoire à ce stade. Il passe en revue l'histoire pour la communauté des Israélites qui est de retour de l'exil. Il brosse des portraits du roi qui doit venir, et cela en vue de motiver la communauté à anticiper sur la venue de ce roi. Motiver aussi cette communauté à vouloir obéir à Dieu. Et là, à ce stade, on se voit rappeler que la figure que l'on recherche est un descendant d'Abraham, également descendant de David, roi suprême comme David, mais plus grand que lui. Le serviteur de Dieu qui souffre à la place du peuple, l'intercesseur qui réussit à protéger tout le peuple de toute la colère de Dieu tout le temps. En même temps, certaines réalités sont exposées avec plus de netteté à ce stade. Par exemple, la fin de l'exil n'aura lieu pour de vrai que lorsque justement le roi viendra. Il faut attendre le moment où le roi sera retranché, où il y aura la fin des sacrifices et la fin de la rébellion. Lisons-nous à ce stade. Et puis plusieurs siècles de silence, Dieu ne s'exprime pas. Avant d'arriver à la dernière étape. Moi, jusqu'ici, nous sommes dans l'attente d'une immense famille avec Dieu pour Père, dans un nouveau cosmos magnifique. Promesse faite à Abraham. Solution au problème de la rébellion contre Dieu. Solution à la malédiction que cela a amené. Solution au jugement terrifiant à venir. Solution qui prendra la forme de la réalisation de promesses grandioses faites par les prophètes. Nous avons été à la recherche d'un personnage particulier en qui, grâce à qui, cette solution pourra se manifester. Et notamment d'un roi dont le trône sera établi définitivement, conformément aux promesses faites à David. Les promesses trouvent leur réalisation en Jésus-Christ. Alors, je vais lire une phrase de la Bible et puis je vais vous inviter à me rejoindre dans une autre lecture. Mais voici la première phrase de la dernière partie de la Bible. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est ainsi que commence ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et maintenant, vous pouvez jeter un œil. Ça, c'est une partie de l'une des biographies de Jésus. Je vais lire à partir de là où il est marqué 67. En haut. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et il se souvient de sa sainte alliance conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Promesse faite à Abraham, promesse faite à David, accomplie en Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus-Christ qui réunit tous les attributs, qui remplit toutes les fonctions, qui est à la hauteur de toutes les attentes, le roi parfait qui satisfait aux exigences du pacte, le serviteur qui mène une vie parfaite en faveur du peuple, qui subit la punition à la place du peuple, l'intercesseur permanent qui protège tout son peuple complètement face à la punition de Dieu. Le sacrifice ultime, définitif et efficace, par lequel soit enlevée toute la colère de Dieu, provoquée par toutes les fautes commises par toutes les personnes qui se tournent vers lui. Le conducteur du nouvel exode par lequel on peut sortir véritablement de l'exil et cheminer hors de la rébellion. Le tabernacle ou temple où Dieu est présent avec des êtres humains. Le sage parfait. Afin de combler toutes ses attentes, Jésus vit. De façon parfaite, il meurt sur une croix et revient de la mort. Le fruit de son œuvre se concrétisera dans l'avenir, dans un nouveau cosmos qui est nettement supérieur au Jardin d'Éden et a fortiori nettement supérieur au monde que nous connaissons. Là, dans ce monde parfait à venir, il y aura une foule immense que personne ne peut compter et issue de toutes les nations. Ces personnes loueront d'une voix forte Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus le Roi sacrifié, car ils seront les bénéficiaires de la solution à leurs problèmes. Ils seront sans faute, voire parfait. Mais les croyants en Jésus-Christ à ce stade de l'histoire ne sont pas encore dans cet état final. Nous nous situons à l'époque de la frustration à cause de la rébellion qui continue à nous coller à la peau, n'est-ce pas? Et contre laquelle nous pouvons lutter si nous sommes croyants en Jésus-Christ. Dieu a commencé l'intervention chirurgicale de notre cœur si nous sommes croyants en lui, mais il n'a pas encore terminé. Et nous devons aller à contre-courant des croyances et des valeurs de notre société à bien des égards. Mais c'est également l'époque du service privilégié de notre Maître en attendant son retour. L'époque où on annonce de par le monde le pardon des fautes en Jésus-Christ pour celles et ceux qui se soumettent à son autorité. On va continuer à lire. On va reprendre à partir du verset 72 au 72. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et durant cette époque, les croyants louchent, un œil fixé sur la croix, un autre œil sur le monde à venir. Nous, si nous sommes croyants en Jésus-Christ, nous nous tournons vers Dieu pour qu'il nous fortifie dans notre foi et pour qu'il nous accorde beaucoup de joie dans notre relation avec lui. Nous qui sommes en Christ, nous jouissons de toute bénédiction spirituelle en lui. Mais nous avons hâte d'accueillir la fin de l'histoire de ce monde-ci. Et donc, nous prions ainsi. Viens, Seigneur Jésus. On peut avoir un dernier moment de discussion autour des tables. Cette fois-ci, la question est celle-ci. Quelles sont les qualités chez Jésus que nous avons besoin de valoriser davantage? Quels sont les aspects de la personne de Jésus, l'aspect de son œuvre, que nous avons besoin d'apprécier davantage? Ou au regard de ce qu'on a entendu ce soir, est-ce que cette fonction qu'il remplit, je n'intègre pas cela encore, mais je devrais dans ma perception de qui il est. La question est suffisamment claire? Quels aspects de la personne de Jésus, de l'œuvre de Jésus, devrais-je valoriser plus? Voilà, merci de discuter.